C'était il y a un an, jour pour jour, Benjamin Netanyahou signait aux côtés de Donald Trump et des dirigeants du Bahreïn et des Émirats arabes unis les accords d'Abraham. Bonjour Gérard Benhamou.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Un an après, ces accords ont porté leurs fruits.
Oui, mais il faut remarquer toutefois que les deux moteurs de la machine à l'origine de ces accords lancés il y a un an sont absents aujourd'hui, le président Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette absence a modéré les campagnes médiatiques qui visaient à faire de ces accords un événement sans pareil, en insistant sur le terme d'accord historique pour le Moyen-Orient, une définition que Donald Trump et Benjamin Netanyahou n'hésitaient pas à employer dans les discours à Washington et en Israël. C'est d'ailleurs en partie vrai quant aux effets secondaires, car l'accord entre Israël et les pays arabes, signataires, a cassé le tabou très lourd qui durait et qui délégitimait la création de l'État d'Israël, s'employant à l'exclure en toute occasion de l'arène moyen-orientale. L'Égypte et la Jordanie mis à part, qui ont fini par signer en leur temps, bien avant les accords d'Abraham, des traités de paix en bonne et due forme avec Israël, établissant des relations dites « froides ».
Et justement, on parle là d'anciens belligérants dont les relations avec Israël avaient été marquées par des guerres sanglantes.
Oui, et ce qui n'est pas le cas évidemment des Émirats Arabes Unis, ni de Bahreïn, ni du Maroc, qui ont signé en réalité des accords de partenariat dans divers domaines importants que leur gouvernement voudrait voir fructifier et se hisser au niveau de véritables accords de paix par la diversité et l'importance des échanges à venir, aussi bien culturels, touristiques, universitaires et sécuritaires, englobant des coopérations dans l'agriculture et même la haute technologie. Il s'agit donc de dépasser les domaines des seules affaires qui sensibilisent avant tout les élites économiques en Israël, comme dans les autres pays signataires.
Alors on attend toujours de voir l'Arabie Saoudite rejoindre ces accords et donc entrer officiellement, en tout cas dans le jeu politique avec Israël.
Certainement, mais le roi âgé Salman, actuellement au pouvoir à Riyad, demeure très attaché au credo qu'il a longuement officiellement défendu, la paix avec Israël contre les territoires et un État palestinien avec Jérusalem pour capitale, ce qui assure une certaine stabilité populaire à son régime.
Et aux États-Unis, on donne un certain écho à cette préoccupation.
Dans ces termes, nous restons attachés à la solution à deux États. Nous avons la ferme conviction qu'Israéliens et Palestiniens méritent l'égalité dans la liberté, la dignité, la sécurité et la prospérité. La diplomatie des États-Unis va donc continuer à se concentrer sur des initiatives pratiques pour faire avancer cette ambition à court terme, a ajouté Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Une déclaration d'ailleurs qui rappelle un positionnement que l'administration Biden a réaffirmé à d'innombrables reprises sur le sujet au cours de l'année passée.
Et on continue de parler de diplomatie à Jérusalem. Le Premier ministre Naftali Bennett a réagi au sujet d'un éventuel renouvellement du dialogue avec l'autorité palestinienne.
Oui, un renouvellement attendu par Washington. Et Bennett a affirmé hier soir qu'il ne voyait aucune logique ou même motif suffisant pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, quelqu'un a-t-il dit qui poursuit des soldats de Tsahal à la haie et les accuse de crimes de guerre et qui a encore assisté Bennett sur la chaîne Khan, en même temps paie des salaires à des terroristes. Le Premier ministre a maintenu également sa conviction de longue date selon laquelle il ne devrait pas y avoir d'État palestinien.
Et on sait l'importance qu'Israël accorde à la connaissance de l'histoire.
Oui, pour préserver l'humanité des erreurs parfois tragiques du passé. Et on le sait, Jérusalem est très attaché à cette notion d'histoire. Et dans ce même esprit, le prix Dan David, basé à l'université de Tel Aviv, attribuera 3 millions de dollars par an à des chercheurs et à des professionnels en début et en milieu de carrière qui étudient l'histoire humaine. Ainsi, le prix Dan David est désormais le plus grand prix d'histoire au monde. Gérard Benhamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.